Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 17. Exode au chapitre 17. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit : Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? Moïse cria à l'Éternel en disant : Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse : Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Voilà ce que la Bible nous dit. Nous pouvons lire aussi Exode 16, c'est toujours dans le même esprit, le verset 8. Donc c'est la page juste à côté. Exode 16, verset 8. Moïse dit « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Alors, Dieu, lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, nous connaissons plus ou moins tous l'histoire. Dieu a envoyé Moïse parler à Pharaon. Pharaon, c'était la plus grande armée de l'Égypte, c'était la plus grande armée de l'époque, et Pharaon était le plus grand dirigeant de l'époque. Et Dieu envoie Moïse avec simplement l'ordre de dire « Laisse partir mon peuple » et avec un bâton. Et on se souvient que lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse a peur, il se dit « Mais qui suis-je ? Regarde Seigneur, je suis faible, mais Seigneur, la mission que tu me donnes est trop importante. Regarde la responsabilité de sortir le peuple, ce peuple qui est ici en captivité depuis plusieurs années, plus de 400 ans. Alors toi, tu m'envoies devant ce pharaon, simplement avec la parole et un bâton. » Pour Moïse, c'était inconcevable, c'était pas possible. Et finalement, nous connaissons l'histoire, c'est que le peuple d'Israël a été libéré. Et lorsqu'on arrive au chapitre 14, le peuple se retrouve devant la mer Rouge. Et ils se mettent à crier, à dire à Moïse, « Mais il est où ton Dieu ? Tu nous as sortis, maintenant la mer est devant nous, nous allons mourir. » Dieu dit à Moïse, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi ce bruit ?» Il dit, « Prends cette verge que tu as, tends-la sur la mer et tu verras ce qui va se passer. » Et la mer se sépare en deux. Et au chapitre 15, le peuple chante des louanges, c'est tellement merveilleux, beau. Ceux qui ont le temps, qui lisent ça, Exode 15, comment le peuple d'Israël glorifie, loue le Seigneur. Et on arrive au chapitre 16. Le peuple, une fois de plus, murmure contre Moïse. Et Moïse dit quelque chose. Donc, Exode 16, au verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre qui ? Moïse et Aaron. Mais voilà la réponse que Moïse donne au verset 8. Il dit, en réalité, vous murmurez non pas contre moi, mais contre l'Éternel. Le thème de notre exhortation de ce soir, c'est ne pas personnaliser les situations que nous vivons. Quelle que soit la situation, Moïse est devant une grande difficulté. C'est laquelle ? C'est que le peuple est rebelle. Le peuple l'insulte. Et nous avons lu dans Exode 17, il dit à Dieu, mais le peuple va me lapider. Le peuple était en colère contre Moïse. Et quel est le réflexe de Moïse ? Moïse ne s'arrête pas à sa situation à lui. Il considère que c'est un affront à Dieu, contre Dieu. Moïse relie sa situation à lui, son problème, le fait que les enfants d'Israël veulent le tuer. Moïse relie ça à Dieu en disant, ce n'est pas contre moi, c'est contre l'Éternel qui sont en colère. Ne personnalisons pas les situations. À force de personnaliser une situation, c'est quoi ? C'est-à-dire que la situation se présente à toi et tu estimes que c'est à toi de pouvoir répondre à cette situation-là. Or, nous, si nous sommes enfants de Dieu, on doit comprendre que lorsque on nous attaque, voilà pourquoi il est écrit, il est dit d'Israël dans Nombre 23 que Israël, que Juda, que Jérusalem est comme une lionne. Et le lion, lorsqu'on attaque un de ses petits, ben c'est à lui qu'on s'attaque. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on met la main sur nous, en réalité, c'est contre l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse dans Exode 14:14, qu'est-ce qu'il dit ? Gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Donc Dieu considère que le fait que l'Égypte vienne contre son peuple, c'est contre lui que le peuple vient. Et Moïse a saisi cela. Il a compris que le problème n'était pas un problème lié à sa nature, n'était pas un problème lié au fait qu'il était le chef du peuple, mais le problème était lié au fait que le peuple était rebelle contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, regarde, ce peuple va me lapider. Il va me tuer. Et Dieu dit à Moïse, parle au peuple. Voilà ce que je veux faire. Tu vas frapper le rocher et l'eau sortira. L'exhortation de ce soir, c'est que nous puissions comprendre cela, que quelles que soient les situations qui nous arrivent, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas prendre la situation pour nous-mêmes. Et on va voir des exemples pourquoi beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne triste, parce qu'en réalité, ils vivent un christianisme égoïste, on regarde à soi. Or, quand on est enfant de Dieu, c'est Dieu qui pilote notre vie, comme le frère a dit tout à l'heure, avec l'histoire de Daniel, Dieu est maître des temps et des circonstances. Donc tout ce qui nous arrive, Dieu le permet avec un objectif. Alors, plutôt que de regarder à soi pour dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce que on n'a pas lu toute l'histoire de Moïse, mais quand on lit, on a vu Exode 16, Exode 17, Nombre 13, Nombre 14, Nombre 15, tout ça, ce sont des plaintes. Ce sont des plaintes du peuple d'Israël, contre Moïse. Et qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse tenir ? Il a tenu parce qu'il savait que c'était Dieu qui le soutenait. C'est ce qui a fait qu'il puisse être ferme. Quand il y avait un problème, Moïse en référait à Dieu. Il disait, Seigneur, voici la situation qui se présente à moi. Seigneur, voici ce que dit le peuple. Alors toi, qu'est-ce que tu dis ? Et un vrai serviteur de Dieu, et tous en tant que chrétiens, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Lorsqu'on entend une nouvelle, avant de commencer à se lamenter, on est humain. Je ne nie pas que la peur peut être là. Lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, on t'appelle. Mais une fois que tu as ruminé ça, que tu es calme, je dis, Seigneur, voilà mes yeux se tournent vers toi. La prière fameuse de Josaphat, il dit, Seigneur, je suis sans force. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, fais quelque chose. C'est ça le véritable chrétien. Et beaucoup, malheureusement, ils sont tristes puisqu'ils ont oublié qu'en réalité, lorsqu'on touche à eux, c'est à Dieu qu'on s'attaque. Et Dieu permet cela pour qu'on vive toujours une situation, une condition de dépendance, pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse crier à lui. Et c'est ce que faisait Moïse comme un enfant. Le peuple demande quelque chose, Moïse se tourne vers lui. Le peuple menace, Moïse se tourne vers Dieu. Il dit, regarde ce que dit le peuple. Et Dieu lui dit, voilà, tu feras ceci, tu parleras comme ça, tu diras cela. Voilà, c'est tellement simple. Mais puisque Moïse avait compris cela, voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 18 que le royaume de ceux, ceux qui entrent, ils doivent être comme des petits-enfants. Un enfant, excusez-moi le terme, ne se prend pas la tête. Un enfant ne se prend pas la tête. On te dit, bah, c'est comme ça. Ok, moi je veux voir mes parents. Parce qu'il est conscient, parce qu'il est sûr que ce que dira les parents, eh bien, c'est ce qui sera correct. Parce qu'il est sûr que ses parents feront justice, vont plaider pour lui. Et il est conscient de cela. Et malheureusement, beaucoup sont malheureux parce qu'ils prennent les choses pour eux. Ah, on m'a dit ceci. Ah, on m'a dit que je n'étais pas beau. Ah, on m'a dit que je ne suis pas intelligent. Ah, on m'a dit. Mais cette façon de vivre ne glorifie pas le Seigneur. Nous allons prendre l'exemple d'un homme qui a servi le Seigneur véritablement, mais qui est arrivé à un moment de sa vie où il a été confronté à une situation et plutôt que de se tourner vers Dieu, il a voulu gérer cette situation lui-même et il a échoué. Nous lisons dans 1 Roi au chapitre 19. C'est l'histoire d'Élie. 1 Roi 19. À partir du verset 1er. 1 Roi 19, verset 1er. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit de pierre chauffée et d'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans ce vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre en ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Amen. Voilà l'histoire d'Élie. Élie, l'épisode juste avant, au chapitre 18, a eu une confrontation avec les prophètes de Baal. Et ils étaient plus de 750. Dieu dit à Élie, eh ben, parle au peuple, qu'ils choisissent qui est le véritable Dieu. Alors tu auras une confrontation. Et quand on dit 750 prophètes, il y avait le roi Acab qui était derrière les prophètes de Baal. Il y avait aussi tout le peuple. Donc c'était des milliers de personnes. Et Élie tout seul, Il arrive à affronter ces gens-là. Il prie l'Éternel. L'Éternel envoie un feu qui consume le sacrifice. Et le peuple reconnaît et dit, Élie, ton Dieu, le Dieu d'Israël, est le véritable Dieu. Quel exploit! Formidable ce que Dieu fait au travers de la main de son serviteur. Et lorsque Akab, le roi, raconte cela à sa femme, la femme dit, ok, dites à Élie, envoyez-lui le message, ce qu'il a fait, eh ben, il lui arrivera la même chose. Et qu'est-ce qui se passe? Élie part. Il fuit, il se cache, il est en colère. Et on a lu, j'ai déployé mon zèle, j'ai servi l'Éternel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait moi. Et voilà le piège dans lequel Élie est tombé. C'est lequel? C'est que Élie a voulu gérer cette situation-là par lui-même. Parce qu'il venait de faire un exploit. Et c'est ce qui nous arrive aussi en tant qu'humains. On fait un exploit avec le Seigneur parce que l'exploit qu'il a fait là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait dans la Bible. Parce que quand vous lisez comment il rétablit l'autel avant de faire descendre le feu, il rétablit l'autel, il demande qu'on mette 3 fois de l'eau pour que ça soit bien humide et il fait une simple prière, il dit « Seigneur, agis, fais descendre le feu que tout le monde voit cela, que tout le monde voit que tu es le véritable Dieu. » Et c'est ce que Dieu a fait. Quel exploit! Quel exploit! Et voilà que Jézabel menace Élie. Élie part. Et Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Mais Seigneur, mais regarde tout ce que j'ai fait. Regarde tout ce que j'ai accompli pour toi. Regarde tous les sacrifices. Et maintenant, malgré toutes ces choses que j'ai fait, ils veulent me tuer. » Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? C'est que Élie a personnalisé la chose. Élie a voulu gérer ce problème de Jézabel lui-même. Or, il est écrit dans Éphésiens 6 que même si nous sommes de ce corps charnel, nous avons à lutter contre des esprits. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc même si Jézabel était une femme, je pense que dans sa logique, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, je viens de faire un exploit tellement grand que plus rien ne peut me résister. Mais c'est ce qui nous arrive aussi. On arrive à dire la vérité dans certaines situations. Tenir tête à un membre de famille qui est tellement dur, on se dit, ah oui, c'est bon. Non, ce n'est pas garanti. On a toujours besoin de se remettre au Seigneur. Une tentation forte, on résiste. On t'insulte, on te gifle, tu résistes, tu dis, ah, c'est bon. Mais il va arriver une situation où quelqu'un te regarde, te chip, et là, tu mets un coup. Puisque finalement, tu penses être arrivé par toi-même. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Mais cet exemple est là pour nous rappeler, parce que la Bible dit dans Jacques 5, 16 qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme comme nous. Certes, Dieu l'a utilisé avec une mission puissante, grande. Mais les enseignements qui sont là aussi sont là pour nous rappeler, pour nous dire, on peut tomber aussi dans le même piège. De penser que les combats qu'on va affronter, on va les affronter avec notre force. Non. Certes, c'était une femme, mais soutenue par des esprits. Parce que pour voir comment Élie refuse la mission, il dit à Dieu, tue-moi-même. Tue-moi. Parce qu'il y a des réalités spirituelles qui existent. Il y a des vraies réalités. Ça existe. Ça existe. Et comment faire face à cela? Comme l'apôtre Paul dit, revêtez-vous des armes du Seigneur. Parce que l'ennemi, il n'est pas physique, l'ennemi est spirituel. L'ennemi est spirituel. Et quand on prend les choses pour soi, on va se battre avec les armes charnelles. On va se battre, on va donner des coups. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va finir par s'épuiser. Parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne se fatigue pas. Il peut se déplacer, il revient après. Alors comment toi, un humain, aussi fort que tu es, tu vas combattre ça? Toi, la nuit, tu dors. Mais l'esprit ne dort pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Élie prend la chose pour lui. Et on le voit comment il parle. Il dit, j'ai fait ceci, Seigneur. J'ai fait cela. J'ai fait. Mais ce n'est pas ça le problème de Dieu. Ce que Dieu attendait de lui, c'est de dire, Seigneur, je suis fatigué. Alors donne-moi la force de faire face, de vaincre. Mais il n'a même pas fait cette prière-là. Et Dieu dit à Élie, ok, tu vas descendre dans la ville. Tu vas oindre. Élisée, tu vas oindre. J'ai eu, et ensuite, ils continueront la mission. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Élie a voulu prendre les choses pour lui. Il y a des phrases qu'on peut entendre. On pense que c'est une simple phrase, mais ce n'est pas une simple phrase. C'est une phrase soutenue par les esprits qui est une malédiction sur ta vie. C'est possible. Voilà ce qu'elle dit. Elle envoie juste le message. Ce n'est même pas elle qui parle à Élie. Hein. Elle envoie le message. Elle dit, allez lui dire. Et il y a des phrases comme ça. Quelqu'un te dit, ah mon frère, en ce moment je vois que un simple compliment, banal, mais qui te communique, c'est une piqûre d'orgueil terrible. Il y a des gens, des faux serviteurs viennent, ils te voient. Toi tu es simple, tu penses à servir le Seigneur, à être tranquille, à aimer Jésus. Il vient, il te dit, oh mon frère, le Seigneur me montre. Prophète de nation, tu iras dans le monde. On a connu des personnes comme ça. Moi, j'ai connu des personnes comme ça. Il était simple. Le jour où on lui dit cette phrase-là, oui, mais moi, je veux prêcher. Moi, je veux. Alors qu'il n'avait même pas cette pensée-là. Le diable vient, il te susurre quelque chose. C'est une piqûre. Et on ne reconnaît plus la personne. La personne qui était simple, qui était réservée, eh ben elle a totalement changé. Parce que les réalités spirituelles, ça existe. La phrase qu'Élie a entendue, ce n'était pas une simple phrase humaine, c'était une attaque spirituelle. Et qui lui a donné la victoire contre les prophètes de Baal? C'est l'Éternel. Qui aurait pu lui donner la victoire contre cette femme Jézabel? C'est l'Éternel. Mais on voit dans sa façon de parler, il a pris les choses pour lui. C'est comme s'il est déçu, il dit, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait... Mais ce n'est pas ça le problème de Dieu. Dieu veut lui dire, humilie-toi. Comprends que cette femme-là, si elle t'attaque, pourquoi elle t'attaque? Parce que tu t'appelles Élie? Non. Pourquoi Jézabel envoie ce message-là à Élie? Parce qu'il a fait tuer les prophètes de Baal, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que parce que c'est le serviteur du Dieu vivant. Amen. Puisque c'est le serviteur du Dieu vivant, et nous aussi dans nos vies, le diable va se manifester de temps en temps dans nos vies comme ça. Non pas parce qu'on s'appelle un tel, non pas parce qu'on est dans telle famille, non pas. Non. Le diable viendra parce qu'il voit que Jésus est en toi. Il voit que par toi, ta famille sera délivrée. Il voit que par ton attitude de simplicité, d'humilité, de vérité, eh bien le Seigneur va t'utiliser comme une lumière. Et lorsqu'il t'attaque comme ça, mais depuis que je suis chrétien, mais on se plaint, on commence à murmurer contre Dieu. En réalité, le problème, ce n'est pas nous. Jésus le dit dans Matthieu 10, à partir du verset 16. Il dit, je vous envoie dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes, il dit. Au verset 22 de Matthieu 10, il dit, eh ben, les gens vont vous haïr. Mais pourquoi ils vont vous haïr? À cause de moi. Je veux qu'on soit clair dans ce qu'on dit ce soir. C'est que ne personnalisons pas les choses. Un chrétien, à partir du moment où il est chrétien, sa vie est pilotée par Dieu. Donc tout ce qui arrive, même si ça lui arrive à lui, il doit avoir le réflexe de se tourner vers le Seigneur. Pour dire, Seigneur, regarde encore ce qui m'arrive. Et malheureusement, on s'arrête à notre souffrance. On s'arrête à notre douleur. On s'arrête à notre chagrin. Et on ne se tourne pas vers Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? L'amertume. L'amertume. Comme je disais une fois, quelqu'un qui dit, finalement, je suis en colère contre Dieu. Voilà. Le diable a réussi son coup. Parce que le but du diable, c'est quoi? Quand on lit Éphésiens 6, on n'a pas le temps de lire, mais le but du diable, c'est enlever la foi. C'est ça. Donc, par les épreuves par lesquelles il va passer, par les tentations, par les mauvaises nouvelles, par les accidents, le but du diable, c'est t'amener à renier la foi, à dire, Seigneur, où est Dieu? C'est ce que le peuple d'Israël a dit. Hein. Mais Dieu est où? Est-ce que Dieu est avec nous encore? C'est ça. C'est ça le but du diable. C'est ça son but. Et quand on personnalise, on voit les choses par rapport à nous-mêmes, là, le diable va agir. Mais quand la situation t'arrive, la mauvaise nouvelle t'arrive, comme Élie a entendu, tu te tournes vers la parole, psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, le juste. Son cœur est ferme en l'Éternel. Voilà la réponse du Seigneur. Mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Comme le bien-aimé a dit tout à l'heure, 1 Jean 4, 4. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est cela. Mauvaise nouvelle, comme les amis de Daniel. Où est votre roi? Où est votre Dieu? Je vais vous mettre dans la fournaise. Les amis de Daniel disent, roi, on n'a pas à discuter avec toi. Nous, on sait une chose, que l'Éternel est le seul, le véritable Dieu. C'est cela. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont allés dans la fournaise. Mais ils en sont sortis avec un quatrième homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi s'est prosterné. Il a dit, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est le véritable, le seul, l'unique, le véritable Dieu. On doit comprendre cela, qu'à partir du moment où on devient enfant de Dieu, eh bien, tout ce qui nous arrive, Dieu le permet avec un objectif. On ne sait pas toujours, mais le premier enseignement, c'est quand quelque chose m'arrive, je dois en référer à Dieu. Ne pas le prendre pour moi personnellement. En tant qu'éducateur, il y a un conseil qu'on nous donne souvent. On travaille avec des jeunes qui ne sont pas faciles tous les jours. Et on nous dit, dans toutes les situations que vous avez à gérer, il ne faut pas personnaliser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le jeune vient, comme ça, gratuitement, il t'insulte. Parfois devant les autres jeunes. Alors si tu prends tout au premier degré, mais tu craques. Hein. Tu vas commencer à gifler tout le monde. Là. Mais du matin au soir, tu vas gifler les jeunes. Parce que tu as des jeunes de 12 ans qui ne connaissent pas, ne serait-ce que le respect. Tu lui parles, il dit, t'es qui toi? T'es pas mon père, viens, on va dehors. Un petit de 12 ans. Parfois, c'est la provocation gratuite, mais on nous dit, quand tu arrives, tu mets ton bleu au travail. Bon, nous, on ne met pas de bleu, mais le bleu, c'est vraiment dans la tête. C'est-à-dire que tu arrives, tu prends les choses au second degré. Ils t'insultent, tu prends ça au second degré. Tu dis, je reprendrai ça avec lui. Et parfois, le collègue qui va craquer, on va lui dire, oui, mais tu as craqué parce que tu as pris les choses à cœur. Parce que quand on étudie la situation du jeune, il y en a qui, par exemple, ils n'aiment pas les femmes, par exemple. Eh bien, il va être particulièrement virulent avec une femme. Ou ils n'aiment pas les noirs, par exemple. Et quand tu lis son dossier, c'est là que tu comprends. Tu dis, je comprends pourquoi il est comme ça. Et là, ça te permet, la prochaine fois, de l'aborder avec sagesse. Ne pas prendre au premier degré tout ce qu'il te dit. Parce que, comme j'ai dit, si tu es habitué à ce que tout le monde te respecte, ce jour-là, lui, il arrive, il te regarde dans les yeux. Tu lui dis, fais ça, il se moque de toi. Il dit, t'es pas drôle. Hein. Tu fais quoi? Et là, ça t'apprend à ne pas prendre les choses pour toi. À dire, Seigneur, là, je suis là comme un simple instrument. Un instrument que tu vas utiliser pour le brisement. Mais cette pensée-là, en tant que chrétien, on doit la voir dans notre vie chrétienne de tous les jours. Que ce soit dans les mauvaises nouvelles, que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans les difficultés, toujours relier les choses à Dieu. Toujours relier les choses à Dieu. Si on ne le fait pas, eh ben on sera triste. Nous lisons 2 Samuel au chapitre 16. 2 Samuel 16. Verset 5 au verset 13. C'est l'histoire de David et Shimei. David était arrivé jusqu'à Bakourim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel a fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Seruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur ? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Seruja ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. » Qui donc lui aura dit, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Et peut-être que l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Et David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Amen. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que Shimei, alors que David est en train de s'enfuir parce que Absalom, son fils, cherche à prendre le trône, il a monté tout le peuple contre lui. Et bien Shimei vient. Il vient insulter David. Il dit, homme de sang, voilà, tu mérites ce qui t'arrive. C'est ce que tu mérites. Tu es un homme mauvais, un homme méchant. Et là, nous l'avons lu, Abishai, fils de Tseruja. C'était des vrais guerriers. Une famille connue comme ça. Il dit à David, laisse-moi régler le compte de cet homme. David dit, non, laisse-le. S'il se permet comme ça, malgré... que je sois avec vous, mon armée, il vient m'insulter en face, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il dit, laissez-le m'insulter. Ainsi, Dieu verra ma souffrance et il me fera miséricorde. Il aura pitié de moi. Voilà la réaction que David a. David est humilié, insulté devant son armée. Et il prend cette situation-là. Il utilise à son avantage devant Dieu en disant, Dieu aura pitié de moi. Dieu aura pitié de moi. Voilà un homme qui est roi. Régler le compte de Shimei, ça aurait été dans la légitime défense, ça aurait été dans son droit absolu. Absolu. Mais quelle est la réaction de David? C'est qu'il ne prend pas les choses pour lui. Puisque je suis David, et c'est ça qui nous tue, c'est notre orgueil. On se dit, moi, mais on ne sait pas de quel bois je me chauffe. Moi, mais dans ma famille, on ne me parle pas comme ça. Mais moi, quand je parle, quand je dis un mot, je ne chante. C'est cet orgueil-là, mais un jour ou l'autre, Dieu permettra que quelqu'un se mette en face de toi, te regarde, te tienne tête. Encore, il aurait été seul, ça peut passer. Mais imaginez qu'il y a toute sa garde rapprochée. C'est comme si tu vas voir le président Macron, tu tiens tête devant Macron, devant sa garde. Non seulement tu tiens tête, mais tu l'insultes. Tu craches, tu jettes la poussière. Et lui, il est là comme ça, calme. Il te regarde. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, voilà là où le Seigneur veut nous emmener. À comprendre que finalement, si on vit comme il est écrit dans 2 Corinthiens, en réalité, si nous vivons, Nous vivons pour Christ et nous sommes morts à notre vie. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. David n'accorde pas d'importance à ce que cet homme dit. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que ce chagrin, cette souffrance, pousse Dieu à agir dans sa vie. Alors je me suis dit une chose. Voilà que Shimei vient lui parler en face. Alors je nous pose la question. Tel que nous sommes là, on vient te dire, mon frère Richard, tu sais le frère là, ce qu'il a dit sur toi. Ha! La sœur là, ha! Elle t'a lavé. Là, le rapporteur là, il rapporte bien. Elle va dire juste, elle t'a lavé. Donc, toi dans ta tête, tu commences à imaginer tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a raconté. Tu commences dans ta tête là. Et souvent, nous sommes comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? En tout cas, si ce n'est pas vrai, que Dieu soit béni. Or, le chrétien, comme on a dit, il ne prend pas les choses pour lui. Il prend les choses pour le Seigneur. Il prend les choses pour le Seigneur. C'est ça le véritable chrétien, l'enfant de Dieu. On t'a humilié, on t'a insulté, on t'a critiqué. Tu dis, ah, Seigneur, que ton nom soit béni. Les critiques qui ont été faites là, me rappelle que Seigneur, je dois changer. Peut-être que je suis fier de moi, peut-être que je suis orgueilleux, peut-être que je n'accepte pas les reproches, peut-être que je n'accepte pas, mais c'est ça le travail que le Seigneur veut. Mais quand on s'arrête sur le fait, il a dit ça, on ne rentre pas dans ce que Dieu veut pour nous. Et voilà, David entre pleinement dans le plan de Dieu par cette humiliation qu'il subit, il prend cela. Il y a des chrétiens ou des personnes de manière générale, tu ne peux même pas lui dire, il te dit, bah, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as des critiques à me faire? Tu n'oses même pas lui faire des critiques parce que quand tu vas lui faire des critiques, le lendemain, il va te bouder. Or, on doit comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons pour le Seigneur. On te dit, bien-aimé, aujourd'hui, tu as mal chanté. Tu dis, ah, Seigneur, aide-moi la prochaine fois à chanter correctement, mais à te louer aussi. C'est ça. À ne pas prendre les choses, ah, voilà ce qu'il m'a dit. Oh, il est jaloux. Non. Même s'il est jaloux, ce n'est pas ton problème. Toi, prends ce qu'on t'a dit. Mon frère, aujourd'hui, tu as mal parlé. Prends ça. Et dis au Seigneur, Seigneur, tu as vu, j'ai mal parlé. J'ai même été repris. Alors aide-moi la prochaine fois à parler correctement. Tu as mal servi le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, ce que moi je veux, c'est de te servir. Alors, si on me fait ce reproche, aide-moi la prochaine fois à travailler correctement. Mais quand on se fâche, ça veut dire qu'on travaille pour qui? On ne travaille pas pour le Seigneur. Parce que si on travaille pour le Seigneur véritablement, quand on va te dire tu as mal fait, ben la prochaine fois, dans une équipe de foot, lorsque le coach fait le débriefing du match, il n'est pas tendre. Hein? Il dit à tel joueur, même si le joueur a très bien joué, il aura toujours des reproches à lui faire. Mais le but c'est quoi? C'est que la prochaine fois, il soit plus efficace, mais en plus qu'il serve mieux l'équipe. C'est ça le but. Mais nous on s'arrête sur le fait, ah, voilà il m'a dit ça. C'est contre moi. C'est toujours, non. Ne personnalisons pas les choses. Ne regardons pas toujours à nous. On dit, ah, si le Seigneur a permis que ça soit révélé, alors c'est que le Seigneur veut me changer. Alors prie pour moi. Que Dieu m'aide. C'est ça la bonne attitude. C'est ça la bonne attitude. Un chrétien qui a toujours à fleur de peau, il y a un problème. À qui on ne peut rien dire, il y a un problème. Si le Seigneur nous parle, c'est pour faire un travail dans nos vies. C'est cela. Alors le Seigneur va permettre des épreuves avec un objectif. Ne restons pas seulement à l'épreuve qu'on a vécue. Je pensais à l'histoire de Job. Job, qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme souffrance? Et lorsqu'on lit Job 42, donc la fin du chapitre, Job a compris que la souffrance qu'il a vécue, Dieu a permis ça pour un objectif. Bon, il n'a pas compris comme nous qui lisons, parce que nous on connaît le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est qu'il y a eu palabre entre Dieu et Satan dans le ciel. Et Dieu dit à Satan, regarde mon serviteur, il est fidèle, quelles que soient les situations. Mais ça, Job ne sait pas. Job n'est pas au courant de cela. Et ses amis sont là pour venir le rappeler, pour lui dire, mais tu as péché, repens-toi. Parce que Dieu ne veut pas te laisser comme ça. Regarde ta vie. Tu as mal fait. Et à la fin du chapitre, Job dit, je reconnais, Éternel, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Job 42, 2. Il dit, j'ai parlé trop vite. J'ai été insensé. Maintenant, je veux m'humilier devant tes voix. C'est ça. Pourtant, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, c'était un enjeu spirituel. Et Dieu peut permettre aussi des situations comme ça, qui sont des enjeux spirituels. Toi, tu regardes à toi. Or, Dieu, lui, il a son plan à lui. Et on se dit, c'est toujours moi qui souffre. Tous les frères sont bénis. Tous les frères aussi. Moi, ma situation, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on en arrive à être, comme je disais tout à l'heure, à fleur de peau. En colère contre les autres chrétiens. En colère après Dieu. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, si c'est le péché, repens-toi. Alors si tu t'es repenti, et qu'à ce niveau-là tu es en règle avec Dieu, alors dis au Seigneur, Seigneur, le travail que tu veux faire en moi, fais-le, mais donne-moi la force d'accepter cela. Parce que quand on lit, on nous dit que Job n'a pas péché. Il ne pécha point. Mais ce qu'il a vécu, c'était pour servir le plan de Dieu. Alors il y a des choses qui nous dépassent. C'est ce que Deutéronome 29 dit, hein, 29-29, que les choses cachées appartiennent à Dieu. Pourquoi? On ne sait pas. Nous qui lisons, on connaît l'histoire. Mais lui, Job, qui vit ça, il ne connaît pas. Il ne connaît pas tous ses tenants et ses aboutissants. Il ne connaît pas tout ça. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais Dieu, au travers de sa vie, voulait montrer au diable, mais nous montrer aussi à nous aujourd'hui, chrétiens, qu'on peut aimer Dieu, quelle que soit la souffrance. Amen. C'est ça l'enseignement qui est là. Donc, Job a été utilisé pour ça. C'est pour nous dire aussi que Dieu peut nous faire souffrir, nous, mais tout simplement pour bénir les autres. Humainement, c'est injuste parce qu'on voudrait que celui qui a fait le mal souffre. C'est comme ça que la justice de ce monde fonctionne. Il y a des contraventions en fonction de la faute. Il y a des délits en fonction de la faute. Il y a des crimes et les peines sont proportionnelles à ce que tu as fait aussi. Or, Dieu peut permettre aussi qu'un juste, un homme qu'il aime, souffre pour accomplir son plan. Et quand on est là à toujours regarder à soi-même, mais pourquoi moi? Mais on tourne en rond. Non seulement on tourne en rond et on traîne. Mais le but de Dieu, ce n'est pas qu'on sorte de sa voie. Le but de Dieu, c'est comprendre ce soir, dire, Seigneur, ce qui m'arrive, je veux me tourner vers toi. 1 Pierre 1, 5 qui dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. C'est ça. Quelqu'un comme Joseph. Joseph avait-il péché? Joseph n'a pas péché. Joseph n'a pas péché. Alors regardons sa vie. Quelle souffrance, éloigné de son peuple, de son père, éloigné de sa famille. Accusé encore à tort, sans qu'il puisse se défendre. Et Joseph dira à ses frères, le mal que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Toutes les situations que nous vivons, que cela puisse ricocher, que cela puisse bondir comme un boomerang et revenir à Dieu. Jean 9, l'aveugle né, les disciples demandent, mais maître, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus dit, rien de tout ça. Dieu a voulu qu'il soit né comme ça pour que la gloire revienne à Dieu. Alors, qui peut comprendre ça? Pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Eh bien, ça, c'est Dieu qui le sait. Mais le but, c'est de nous dire, eh bien, Dieu a un plan qu'il va accomplir. Eh bien, ce plan-là, il peut le passer par un tel ou par un tel, comme il est passé par son fils Jésus, qui est mort à la croix pour nous, injustement frappé, condamné. Il a accepté cela. Et nous aussi, le Seigneur veut que nous puissions réaliser. Ne pas regarder toujours à nous, personnaliser, disant, mais Seigneur, c'est... Non, au lieu de te lamenter, bah, tourne-toi vers Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, tu as dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai le repos. Tu dis dans Jean 14, 27 que le repos que toi tu donnes, la paix que tu donnes, eh ben, le monde ne peut la produire. Seigneur, alors, devant la situation qui se présente à moi, même si je ne comprends pas tout, alors je viens te la recommander. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu attend de nous. Quelles que soient les situations, remettons ça à Dieu. Remettons ça à Dieu. On te pointe du doigt, regarde. Depuis que tu es chrétien, nous allons lire Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 1er au verset 4. Matthieu 4, à partir du verset 1er, on peut commencer. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servait. Amen. Voilà cette histoire que la Bible nous raconte. Le diable vient voir Jésus. Et on nous dit que l'Esprit conduit Jésus dans le désert. Le tentateur se présente. Il dit au Seigneur, ben, si tu es le Fils de Dieu, voilà que tu sors de jeûne, tu as faim. Ah ben, ordonne, transforme ces pierres en pain. Et c'est là que le diable va vouloir nous amener aussi. Quand on regarde, et c'est très flagrant pour ceux qui regardent les documentaires animaliers, ils verront une chose, notamment par rapport aux lions. Les lions, même quand ils sont en meute, en groupe, c'est des vrais lâches. Ils sont très forts physiquement, enfin, forts physiquement, mais en tout cas, c'est des lâches comme eux, j'en ai jamais vu. Quand il y a un troupeau, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en prendre un, ils vont vouloir l'écarter du troupeau. Progressivement, ils vont le pousser, l'isoler, et c'est là qu'ils attaquent. Et le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et le diable vient voir Jésus pour lui dire, mais tu es le Fils de Dieu. Là, ils sont tous les deux. Il dit, mais ordonne, transforme ces pierres en pain. Mais tu es chrétien. Regarde, tu as chanté Jésus est Seigneur. Maintenant, tu rentres à pied chez toi. Regarde, il pleut, le frère là ne s'est même pas arrêté pour te prendre. Là, tu es seul là avec le diable. Là. Quand vous êtes en groupe, là, il t'attend dehors, comme le lion. Et quand tu es seul là, c'est là qu'il vient dans les pensées pour te dire, mais voilà, mais tu es chrétien. Mais regarde ta vie. Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es chrétien? Imaginons que le diable parle ainsi au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Tout ça pour susciter un orgueil, pour que Jésus te montre, mais oui, je suis le Fils de Dieu, regarde. Mais Jésus n'a pas obéi au diable. Jésus n'a pas obéi, il n'a pas approuvé au diable qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il l'est. Il dit, sache que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. Et nous aussi, quand les situations se présentent à nous, plutôt que de regarder à nous, mais Seigneur, mais je suis chrétien, mais Seigneur, prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Il y a des gens à qui on a dit, tu n'enfanteras jamais. Mais la Bible dit, dans Ésaïe 54, la femme stérile, elle dit, étends l'espace de ta tente, parce que celle qui était appelée stérile, eh bien, deviendra une mère d'une multitude. C'est ça que la Bible dit. Qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, plutôt que de te lamenter de ta situation, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? C'est ça. Ne cherchons pas à résoudre les problèmes par nous-mêmes, notre intelligence. Non. Il y aura des moments où on t'accule, tu ne réponds pas. Ou alors la réponse que tu donnes, c'est celle que dit la Bible. Voilà, ça suffit. C'est ça. Et là, nous sommes dans les solutions. Les solutions. Comment faire pour ne pas personnaliser les choses qui nous arrivent, les problèmes? Regardons la parole de Dieu. Que dit la Bible? L'homme a dit que c'est comme ça, mais qu'est-ce que dit la Bible? Le spécialiste a dit, ton enfant, il n'y a plus rien à faire, c'est comme si. Oui, lui, il a fait des études pour ça. Mais nous, on a celui qui, au-dessus même de ceux qui ont fait des études, nous, on a celui qui, Éphésiens 3.20, a agi au-delà de ce qu'un homme peut penser, imaginer même. Nous, on a lui avec lui, avec nous. 2 Chroniques 32. Sanchérib envoie une lettre, envoie des gens pour voir Ézéchias pour lui dire. Il parle au peuple et il dit, peuple, sachez, ne suivez pas votre roi Ézéchias qui veut vous troubler. Regardez les nations que j'ai détruites par ma main, par mon armée. Et j'aime beaucoup ce passage. 2 Chroniques 32, Ézéchias. Cherche la face de Dieu. Il rassemble le peuple, les chefs de peuple. Il dit, cet homme qui vient là, il vient avec un bras de chair. Il a une armée. Mais celui qui est avec nous, lui, c'est l'Éternel. Nous lisons ce passage-là. Deux chroniques 32, pour finir. 2 Chroniques 2 Chroniques 32, on pourra s'arrêter au verset 8. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs de militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est devant lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. » Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. On envoie le message. On dit, regarde ce qui va arriver. Eh bien, Ézéchias n'a pas regardé à lui. Il s'est tourné vers Dieu. Et j'aime beaucoup quand on dit, il reprit courage. Et ensuite, il encourage le peuple. Il dit, nous, on a l'Éternel avec nous. Alors, n'ayons pas peur. C'est ça. Quelle que soit la nouvelle que tu peux recevoir, qui peut te frapper comme cette nouvelle qui a frappé le peuple d'Israël, eh ben, le Seigneur nous dit que lui, il est présent. Alors, ne cherche pas à résoudre par toi-même. Cherche la face de Dieu. Comment ? Par la prière. Par la prière. On a vu que Moïse, lorsque le peuple le menaçait de le tuer, Moïse se tournait vers Dieu et il priait. Il ne cherchait pas à résoudre lui-même les problèmes. Philippiens 4, 6. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. C'est ça les armes que le Seigneur nous donne. C'est ça les armes. On a cité la parole avec Jésus qui est attaqué par le diable, et bien qui répond par la parole. C'est ça les armes que le Seigneur nous donne. Alors, ce soir, ne regardons pas à nous pour dire « Je suis faible ». Oui, tu es faible. Oui, je suis faible. Et la Bible le dit. 2 Corinthiens 12, verset 9, l'apôtre Paul dit « Le Seigneur me dit, ma grâce te suffit car c'est quand tu es faible comme ça que Dieu manifeste sa force. » C'est ça. Alors si on te dit « Toi, tu es faible. Toi, tu ne connais pas. » Tu dis « Oui, oui, c'est vrai. Mais Jésus est fort. » Tu es nul, excusez-moi le terme. Je lui dis, ah bon, tu ne savais pas? Mais Jésus est champion. On dit, tu es nul. Allez, ah! Tu es nul, tu ne dors plus de la nuit. Mais non, mais ça, c'est un homme qui t'a dit ça. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit? Gédéon dit, mais qui suis-je, Seigneur? Regarde, en Manassé, je suis tout petit. Ma famille est la plus petite. Dieu dit, toi, tu es le vaillant héros. C'est toi que je vais choisir pour mon peuple. Alors l'exhortation, c'est ne personnalisons pas les situations, les épreuves qui nous arrivent, comme si c'était notre affaire à nous. Oui, c'est notre affaire parce que ça nous arrive, mais en réalité, c'est l'affaire de Dieu parce que c'est lui qui règle. Alors je me tourne vers lui. Et c'est ce qu'a fait Ézéchias, il s'est tourné vers Dieu. Et en se tournant vers Dieu, il a repris courage. Il a encouragé les autres. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, Pierre, l'ennemi cherche à te cribler. Mais pourquoi l'ennemi cherche à cribler Pierre? Parce qu'il s'appelle Pierre. Non. L'ennemi cherche à le cribler parce que Pierre aimait Jésus. En réalité, c'est à cause de Jésus. Matthieu 10, 22. À cause de moi, on vous haïra. On vous fera du mal, mais c'est à cause de moi. Alors quand ça t'arrive, pourquoi tu regardes à toi? Dis, Seigneur, c'est à cause de toi. Alors je te donne la situation. Mais nous, à ce moment-là, on se lamente sur notre propre sort. En disant, Dieu m'a abandonné. Non, non. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à réaliser cela et à ne pas chercher à régler les choses par nous-mêmes, à nous justifier par nous-mêmes, à personnaliser en disant « on m'a dit ça, on m'a dit ça ». Non, même si on t'a dit, le Seigneur est plus grand. Même si les hommes t'ont condamné, même si ton cœur t'a condamné, le Seigneur, la Bible dit, est plus grand que notre cœur. Même si tu as été maudit, eh bien, le Seigneur est tout puissant et il dit que la malédiction sans cause est sans effet. Il est écrit que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole de ce soir qui nous rappelle, Seigneur, que nous devons avoir foi en toi, Seigneur. Ta parole qui nous rappelle ce soir que, Seigneur, ce n'est pas par notre force, Seigneur, mais c'est par ton esprit. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, ce soir. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, ce soir, à nous tourner vers toi. À nous tourner vers toi, Seigneur, comme des enfants. Tu as dit, Seigneur, que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants, quel que soit le problème. Seigneur, petit ou grand, il est petit ou grand pour nous, Seigneur. Mais pour toi, Seigneur, tu ne connais pas petit ou grand. Ta puissance, Seigneur, se manifeste, quel que soit le problème. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à nous tourner vers toi. Tu as dit, Seigneur, de nous décharger sur toi de tous nos fardeaux, car tu prends soin de nous. Tu as dit, Seigneur, tu nous invites à venir nous décharger de tous les fardeaux que nous avons, Seigneur. Seigneur, nous venons nous décharger ce soir. Nous venons nous décharger ce soir, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons pris pour nous, Seigneur, une remarque, alors que tu as peut-être utilisé un bien-aimé pour nous redresser. Mais nous avons gardé l'amertume, Seigneur, parce que nous avons considéré que c'était contre nous, Seigneur. Nous avons vu avec l'exemple de David, Seigneur, qu'il a accepté d'être humilié par Shimei. Mais David s'est tourné vers toi, Seigneur. Le chagrin que procurait cette humiliation, David l'a tourné vers toi, Seigneur, afin que tu aies pitié de lui, Seigneur. Et nous prions pour que tu nous aides aussi. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui nous rappelle que nous devons te faire confiance. Seigneur, merci pour la guérison, car il est écrit dans le psaume 107, verset 20. Dans leur détresse, tu envoies ta parole qui les guérit. Nous croyons que ta parole nous guérit ce soir. Nous croyons que ta parole nous délivre aussi. Que ton nom soit béni pour ta grâce. Nous te recommandons, Seigneur, le reste de cette soirée entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur, et dirige-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.